France Culture.
D'où vient cette mutation profonde de notre économie? Est-elle l'inévitable conséquence d'une mondialisation marquée par le libre-échange, le fruit de décisions politiques fâcheuses, d'un déni collectif, d'une perte de souveraineté économique ou de la financiarisation? Réfléchir sur les causes de la désindustrialisation, c'est aussi interroger ses remèdes. À l'heure où l'Europe semble prise en étau entre le protectionnisme américain et l'exportation chinoise, est-il seulement possible, souhaitable, de revenir en arrière? La désindustrialisation, une fatalité française? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du haut fonctionnaire Nicolas Dufourcq, de la géographe Anaïs Voix-Gilis et de l'économiste Vincent Charlet.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Vincent Charlet.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du think tank français La Fabrique de l'Industrie.
Oui.
Bonjour Nicolas Dufourcq.
Bonjour.
J'ai dit le mot fonctionnaire pour dire en un mot, mais ce n'est pas votre présentation. Vous êtes directeur général de BPI France et auteur de plusieurs ouvrages, dont La désindustrialisation de la France 1995-2005, dont nous allons parler, et plus récemment de La dette sociale de la France 1974-2024 aux éditions Odile Jacob. Et bonjour Anaïs Voix-Gilis. Vous êtes géographe, spécialiste des enjeux industriels en France et en Europe, et auteur notamment de « Pour une révolution industrielle » aux éditions des Presses de la Cité. Alors, je citais en introduction la liquidation judiciaire de Brandt. Mais depuis les élections européennes de juin 24, la CGT a recensé de façon plus globale 444 plans sociaux, dont 325 fermetures de sites industriels. On pourrait citer donc beaucoup d'autres entreprises qui sont concernés par ces liquidations, par ces fermetures en série. En introduction, quel tournant, quel moment, Nicolas Dufourcq, vivons-nous de l'industrie française ?
Écoutez, d'abord, je trouve presque curieux qu'on commence par citer les statistiques de la CGT, comme si c'était l'État. Au premier semestre, il y a eu à peu près autant d'usines ouvertes que d'usines fermées. C'est ça qui compte. L'industrie, c'est quelque chose qui se renouvelle constamment. C'est un tissu incroyablement plastique. Il y a des entreprises qui sont en perte depuis longtemps, qui ont peu investi, qui sont sur des marchés très attaqués par la Chine, qui vont d'actionnaire en actionnaire, en général étranger. C'est le cas de Brandt, hein, puisque Brandt était espagnol, et puis ensuite est devenu algérien, et qui tombe. Et puis vous avez des entreprises qui ouvrent. Hein. Donc le jour de la liquidation de Brandt, qui est quelque chose qui est absolument terrible pour les 750 familles, c'est complètement clair. Vous aviez la grande inauguration de l'usine de Gigafactory de batterie Vercors à Dunkerque, un investissement de plusieurs milliards d'euros quand même. Hein. Et puis, et à titre personnel, moi j'ai rencontré un entrepreneur dans mon bureau qui m'expliquait qu'en 2025, il avait ouvert à lui seul trois usines en France. Donc la désindustrialisation, on a essayé de la stopper. Elle est à peu près stoppée, mais c'est une bataille d'attrition, d'une extrême violence, en fait, notamment dans le contexte du tsunami chinois qui nous tombe dessus, qui est beaucoup plus violent que ce qu'on n'aurait jamais imaginé, en particulier il y a 3-4 ans, hein. Post-Covid, c'est une autre Chine qui arrive sur le marché, et qui est ultra compétitive, sur toutes les verticales de l'industrie, absolument toutes les verticales de l'industrie, avec des prix qui sont 50, 60, 70% inférieurs à ce que l'Europe est capable de fabriquer, et donc très dangereuse pour toute l'industrie européenne, de la Pologne à la Bretagne. Voilà. Et je pense que ça décrit à peu près le panorama dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une industrie ultra innovante est en train d'émerger, et la Chine est en avance sur pas mal de sujets, mais nous avons de la propriété intellectuelle scientifique, nous avons une deep tech extraordinaire, un renouvellement incroyable du tissu d'entrepreneurs industriels, des successions dans les PME qui sont de très grande qualité. La qualité moyenne, je trouve, de l'entrepreneuriat industriel français a beaucoup augmenté, mais des vents contraires très importants.
C'est exactement l'esprit de cette émission sans préjugés que de remettre en cause le point de départ. Et en effet, Nicolas Dufourcq faisait remarquer que j'ai cité les chiffres de la CGT, mais que ça oriente peut-être la réflexion. Vincent Charlet, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Dufourcq pour dire qu'il ne faut pas avoir un constat trop pessimiste sur la situation que nous traversons ?
En tout cas, je partage cette idée que c'est toujours très difficile de partir d'un fait isolé, je veux dire un événement, et de se demander de quoi est-ce qu'il est représentatif ou en quoi est-ce qu'il est représentatif de l'état de notre économie ou de l'état économique de notre industrie. C'est un drame pour les familles, c'est un coup de tonnerre aussi pour les territoires. Et puis, comme il s'agit d'une marque familière à beaucoup d'entre nous, qui évoque des appareils électroménagers au milieu desquels on a grandi, forcément, on touche au plan symbolique. Et la population est forcément réceptive à ce drame, à cet incident. Mais en effet, même si ça paraît froid de le dire, il faut bien avouer qu'un fait comme celui-là, ou même plusieurs côte à côte, et des statistiques qui se penchent sur les cas de fermeture et qui en oublient les ouvertures, ne dit pas tout, ou ne dit pas peut-être même l'essentiel, de l'état véritable de la santé de notre industrie. L'industrie française et l'ensemble des industries européennes ont subi des décennies 80-90 extrêmement violentes, extrêmement difficiles pour elles. Puis il y a eu une espèce de faux plat, de trêve, depuis la sortie de la crise de 2008, depuis 2012 en gros. À ma connaissance, on ne sait pas encore expliquer pourquoi. Et cette trêve, cette parenthèse enchantée, elle est en train de se refermer. C'est-à-dire que depuis un an, deux ans, de nouveau, les statistiques apparaissent un petit peu moins favorables, et surtout l'inquiétude des salariés, des syndicats, vous venez de les citer, mais aussi des porteurs d'entreprises, des dirigeants. Cette inquiétude reprend un peu le devant de la scène. Peut-être que le contexte électoral n'y est pas étranger. Et donc, l'ensemble des parties prenantes de l'industrie, aujourd'hui, fait le décompte de tous les défis qui sont à relever. La concurrence chinoise plus violente que jamais. Il n'y a pas un segment d'industrie sur lequel on ne se dise pas, là, a priori, si les Chinois n'y sont pas, c'est qu'ils y seront bientôt. Les prix de l'énergie, qui continue à traîner comme un boulet, assorti d'une politique générale ou d'une politique cadre de décarbonation en France et en Europe, qui n'est pas bouclée, qui n'est pas achevée. On n'a pas réussi, en fait, à trouver les instruments qui vont permettre une décarbonation favorable qui maintiendrait l'industrie compétitive. On pourra peut-être en reparler. Bon, bref, donc il y a un certain nombre de défis importants qui, j'allais dire, réactivent une forme d'angoisse vitale de la part des salariés de l'industrie et de ceux qui dirigent les entreprises, ce qui explique peut-être le contexte un peu de tension ou d'appréhension que vous évoquez.
Anaïs Voigelis, est-ce que vous pensez aussi que entre l'angoisse vitale dont parlait Vincent Charlet de ses salariés et des personnes qui sont concernées dans leur chair, dans leur vie, par la désindustrialisation, et le panorama qu'il faut faire de la situation actuelle de l'industrie française, il y a quand même des nuances à établir?
Oui, en fait, je pense qu'il y a quatre choses qu'il faut retenir pour dresser le panorama. C'est déjà, la première chose, c'est d'où on part en termes du poids de l'industrie dans le PIB français. C'est environ 10 points de PIB quand on est à 17 points pour l'industrie manufacturière en Allemagne et 15 en Italie, ce qui est à peu près la moyenne européenne. Donc, on a une situation où le poids de l'industrie dans le PIB français est déjà moins important que dans d'autres pays. La deuxième chose, c'est regarder le contexte dans lequel on évolue. On voit que depuis fin 2017 jusqu'à mi-2024, on était plutôt sur un mouvement positif en termes de création d'emplois. On recrée de l'emploi industriel dans de nombreux secteurs, y compris dans des secteurs qui ont pu être emblématiques de la désindustrialisation, comme le textile ou l'habillement. Sur la période post-Covid, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, et on se rend compte qu'en 2024, ce mouvement, qui était porté aussi avec la crainte de risques géopolitiques, la crainte de rupture d'approvisionnement, le besoin d'avoir des économies plus résilientes, s'essouffle. Il s'essouffle parce qu'il y a une concurrence très forte de la Chine, et pas uniquement sur des biens low cost, hein, comme ça a été dit dans l'émission par Nicolas Dufourcq. Il y a aussi la situation américaine, d'abord avec Joe Biden et sa loi de réduction de l'inflation, avec le fait d'essayer d'attirer des investissements étrangers en mettant des clauses de localisation de production pour bénéficier de certains crédits d'impôt. Puis Donald Trump, qui a une politique très féroce en matière de droits de douane pour essayer de maintenir une base industrielle américaine, voire la redévelopper, alors que les États-Unis sont aussi assez fortement désindustrialisés comme nous. Ce qui se traduit sur une année glissante par une baisse des importations américaines depuis la Chine de 29%, mais une augmentation des importations de l'Europe depuis la Chine de 15%. Et on peut se dire, cette situation, elle serait propre à la France. Sauf que quand on regarde les autres industries européennes, on se rend compte qu'on a des situations contrastées et que, par exemple, l'Allemagne, qui était très dépendante du gaz russe, qui a dû se retourner vers d'autres circuits d'approvisionnement, notamment américains, connaît un effritement de son industrie et une contraction de son tissu industriel qui est beaucoup plus fort que ce qu'a la France. Et il y a deux autres choses à regarder au-delà de ce contexte, c'est qu'on a aussi une évolution du tissu industriel qui est liée à nos évolutions et nos choix de société. Par exemple, la volonté de passer du véhicule thermique vers le véhicule électrique, qui peut avoir un impact sur le tissu industriel et donc qui demande d'anticiper les impacts sociaux et territoriaux. Une transition écologique, donc qui va amener soit des reconfigurations en termes de process et de mix énergétique dans les sites industriels existants, soit des mutations industrielles beaucoup plus profondes. Et là, la question qui va se poser à nous, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une stabilité dans nos politiques publiques? Est-ce que l'Europe montre, eh ben, c'est finalement peut-être des revirements et une conviction peut-être moins fortement chevillée au corps sur les orientations à prendre en termes de transition écologique que ce qu'on peut voir peut-être ailleurs dans le monde, y compris en Chine, ce qui pourra peut-être surprendre nos auditeurs, mais on y reviendra sûrement. Et la dernière chose, c'est la réalité économique. C'est qu'on a une demande en Europe aujourd'hui qui atone, ce qui pèse sur des secteurs majeurs comme l'automobile et la construction, ce qui se déverse sur l'ensemble des chaînes de valeur. Quand on parle d'automobile, c'est le verre qu'on retrouve aussi dans la construction, etc. Donc, les entreprises européennes, aujourd'hui, elles perdent des parts de marché par la destruction des chaînes de valeur et cette demande qui est insuffisante en Europe et qui est renforcée par la concurrence asiatique. Et la dernière chose, c'est que on peut revenir sur des questions de pouvoir d'achat, ce qui nous amène sur la structure de coûts des entreprises européennes par rapport à ailleurs en Europe. Et le constat, quand on parle d'un brand, c'est que le made in France n'est pas un argument suffisant pour que le consommateur fasse un arbitrage, et surtout quand il y a une question de prix, entre un produit français et un produit fabriqué à l'autre bout du monde. C'est presque systématiquement la question du pouvoir d'achat qui prime. Et si vous revenez vers les entreprises, quand vous êtes face à un acheteur d'entreprise, en général, il va regarder le facteur prix, même s'il intègre d'autres choses comme la résilience, le fait de moins dépendre. Et un acheteur public peut avoir exactement les mêmes raisonnements. Donc, on peut prendre les choses comme on veut. Si à un moment, on n'a pas l'envie de se dire qu'il faut faire un effort pour le tissu industriel qui peut avoir un coût, des histoires comme Brandt, on en reverra d'autres. Et on peut dire que c'est de la faute de l'État. L'État a peut-être une responsabilité, mais c'est aussi une responsabilité collective et il faut qu'on la regarde droit dans les yeux.
Vous citiez la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français. Il y a un homme qui s'est fixé comme objectif de la faire croître d'ici 2035. Et cet homme, c'est le président de la République, Emmanuel Macron.
Nous devons poursuivre la bataille de la souveraineté. Dans un monde où la Chine surproduit, où les États-Unis imposent des barrières douanières massives, où l'Union européenne évolue encore trop lentement, nous devons être lucides. La compétition mondiale n'a jamais été aussi rude. La France, l'Europe ne doivent pas subir. Nous devons choisir et nous choisissons la souveraineté. Et parce que la souveraineté, ça ne se proclame pas, ça se construit, j'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous. Choisissez les produits fabriqués en France et en Europe. Ma deuxième conviction, c'est que nous devons poursuivre la bataille de la protection. Nous allons continuer à protéger nos PME, nos commerces, nos producteurs contre toutes les concurrences déloyales. La taxe sur les petits colis, les clauses de sauvegarde sur l'acier, les mesures anti-dumping, ce n'est qu'un début. Nous ne serons plus le seul continent à ne pas nous protéger. C'est encore aujourd'hui trop souvent le cas en Europe. Et ça n'est pas du protectionnisme, c'est juste du bon sens. Nous devons défendre nos intérêts et donc assumer ces mesures de protection quand la concurrence est déloyale. Et nous devons aussi assumer une préférence européenne.
Vincent Charlet, est-ce que cette bataille pour la réindustrialisation et pour la souveraineté industrielle, vous diriez que pour l'instant, ça a été plutôt un des échecs du macronisme ou au contraire une de ses réussites ?
Non, ce n'était pas un échec. Globalement, on parle d'un sujet compliqué et ce que je regrette peut-être, c'est que ce récit qui a été proposé ou qui l'est encore mélange des choses qui devraient peut-être rester séparées. Il faut rester humble. Je ne connais personne qui, à l'Élysée, au moment de l'éclatement du Covid, aurait été capable de proposer une stratégie nationale qui soit de nature, un, à rassurer suffisamment la population, deux, mettre fin à la pandémie, et trois, maintenir l'économie dans un état de résilience. Donc, c'est facile de critiquer. Simplement, le concept de souveraineté industrielle qui a été proposé à ce moment-là, comme une espèce de martingale qui permettrait à la fois de nous procurer des masques et des vaccins, porter à bout de bras l'économie et réindustrialiser le pays au point peut-être d'atteindre 12 à 15% du PIB. C'était, à mon avis, aller vite en besogne et mélanger plusieurs choses. Je pense qu'on ferait mieux de laisser la souveraineté là où elle est. C'est un concept politique qui est déjà compliqué en soi. Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, ça commande plusieurs actions en matière de réarmement notamment et de réflexion sur l'indépendance énergétique ou des terres rares. Mais les difficultés d'un Brandt, par exemple, à mes yeux, n'ont rien à voir avec la souveraineté. Et, pardon, mais le concept de souveraineté industrielle, pour faire court, ne veut rien dire, c'est pas dans le dictionnaire, et c'est pas mesurable. Il y a des notions plus anciennes qui avaient cours avant l'éclatement du Covid, comme la compétitivité, par exemple, ou l'effort de recherche, qui certes ont l'apparence de recettes du monde d'avant, mais là, au moins, on peut les mesurer, on peut savoir si on progresse ou on progresse pas. En l'occurrence, on progresse pas, ou pas beaucoup. Et je propose du coup de laisser à ce chapitre particulier de l'histoire qui a été le Covid, cette expression ou cette mobilisation de souveraineté industrielle qui ne sera pas pour nous un bon guide pour les années qui viennent.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Écoutez, on a perdu en 15 ans Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je vous parle même pas de Essilor.
Nos auditeurs auront peut-être reconnu la voix, sans doute, d'Arnaud Montebourg qui s'exprimait dans le cadre de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France en mars 2023. Nicolas Dufourcq, dans votre livre sur la désindustrialisation de la France, vous avez réalisé énormément d'entretiens avec des acteurs du monde politique, économique, concernés par la désindustrialisation, mais vous commencez surtout sur un long texte introductif, extrêmement riche, où vous proposez à la fois une généalogie de cette désindustrialisation et une analyse des causes, des responsabilités, des échecs. Cette généalogie depuis les années 70. Si on devait résumer les grands moments, les grands actes, entre guillemets, de cette tragédie, vous citeriez quel tournant, quel virage historique ?
Alors, il y a un moment, années 70, incontestablement, qui est un moment où deux mots peuvent émerger. Le premier, c'est sidérurgie, et le second, c'est Japon. Pourquoi sidérurgie ? Parce que la France avait largement surinvesti dans sa sidérurgie à la fin des années 60, à un moment pompidolien d'ailleurs, et Raymond Barre, à l'époque commissaire européen, avait dit que c'était une erreur. Mais c'était une erreur. On s'est retrouvé avec des surcapacités qui sont devenues elles-mêmes d'ailleurs un enjeu de campagne électorale en 1981, puisque la gauche de l'époque avait promis de les augmenter. Donc on s'est retrouvé avec un drame terrible, qu'on n'a d'ailleurs plus connu depuis, parce qu'il faut se souvenir qu'il s'est agi à l'époque d'absorber une vingtaine de milliers de licenciements. Donc c'était des territoires entiers qui ont été dévastés. Et c'est aussi le Japon, puisque c'est l'époque où commence l'entrée de ce pays incroyablement industriel sur les marchés mondiaux, avec de l'électronique, et puis, et à l'époque encore, du textile. Donc c'est la fin des vallées textiles. C'est les accords multifibres. Bon. Ensuite, effectivement, politique du Francfort, marche vers l'euro, gestion de la France quand même extrêmement sérieuse, grosso modo entre le tournant de 83 et l'année 2000, l'année où on rentre dans l'euro, et plateau. Et puis, pendant ce temps-là, religion du libre-échangisme, qui commence à monter. C'est le moment Clinton, c'est le moment Fukuyama, réunification allemande. La Chine n'est pas considérée comme réellement menaçante à ce moment-là, et on l'a fait rentrer dans l'OMC, sur pression diplomatique américaine, mais fondamentalement, tout le monde est d'accord. C'est le moment OMC. Et la France s'endort. Elle s'endort à deux titres. Le premier, c'est qu'elle rentre dans l'euro. Et donc le risque pour elle de dévaluer le franc n'existe plus. Et elle commence à prendre ses mauvaises habitudes de déficit public. Et à nouveau, elle peut par conséquent imaginer, se permettre de plus s'occuper directement de la question industrielle, ce qui était le cas auparavant. Et un deuxième titre, c'est que 15 jours après l'entrée de la Chine dans l'OMC, on applique les 35 heures. Donc c'est comme si, vous voyez, au moment où la guerre démarre, vous désarmez. 15 jours après l'entrée de la Chine dans l'OMC, les 35 heures commencent en France. Qui sont une catastrophe pour l'industrie française, hein, et pour les finances publiques de l'État, puisque c'est l'État qui paye les cotisations sociales du passage de 39 à 35 heures. C'est là que commencent les grands allègements de charges dont on dit aujourd'hui que ce sont des aides aux entreprises. Et ça se voit pas encore tout de suite. Les chiffres sont pas mauvais. On se compare à l'Allemagne. L'Allemagne a des difficultés. Comme d'habitude, quand l'Allemagne a des difficultés, la France pavoise. Et on se croit très fort. À partir de 2003, c'est le toboggan. Et un toboggan extrêmement vertical. Hein. Et on perd des points de PIB d'industrie, on perd des emplois, les vallées se vident. Ça ne s'entend pas trop à Paris, parce que le pays est encore très centralisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça vient à la tête, finalement, de la classe politique, seulement, grosso modo, en 2008-2009, quand c'est l'automobile qui est atteinte. Parce que l'automobile, c'est le drapeau. Et si l'automobile souffre, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Autrement dit, on avait pu accepter le textile, etc., la sidérurgie, tout ça, c'est le passé. On pensait s'en tirer. Mais si l'automobile est touchée, c'est que quelque chose de plus grave est arrivé. Et à ce moment-là, on commence tout doucement à se poser la question, que s'est-il passé? Et je vais vous dire, quand on crée la BPI en 2013, moi je pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la plupart des gens disent, on ne sait pas. On ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Les économistes, le cercle des économistes, la direction des études économiques du Trésor, l'INSEE, il y a un espèce de voile cotonneux. On ne comprend pas bien ce qui s'est vraiment, vraiment passé. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est que je pense qu'on doit aux Français, il fallait, maintenant, je pense qu'on a bien avancé, mais il fallait répondre à la question, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mal fait? La réponse est, tout le monde a souhaité la disparition de l'industrie française.
Il y a la question de la compréhension, et il y a une autre question dont vous parlez dans votre livre, c'est que vous dites que ce phénomène de désindustrialisation, notamment dans les années 1990, c'est même pas qu'on ne le comprenait pas, c'est qu'on n'en parlait pas. Et vous dites que les médias, je vous cite, hein, les médias de l'époque avaient une forme d'aveuglement face à cela, et qu'elle était aveugle à cette réalité des territoires, des métiers qui disparaissaient, et qu'il y avait une forme de vide intellectuel sur cette question.
Le dernier ministre à avoir représenté, incarné personnellement ce monde de la PME, c'était René Monory. C'était le garagiste de Louviers. Et puis après, vous avez eu à peu près un ministre de l'Industrie par an, n'incarnant plus du tout le sujet. Alors il y en a un qui a duré un tout petit peu plus longtemps, mais qui était, pendant toute la période de Raffarin, on va dire, hein, mais qui était peu vocal sur ces questions-là. Et en réalité, c'était très très difficile d'être invité sur un plateau comme aujourd'hui pour parler de l'industrie à l'époque, hein. Impossible de venir expliquer que les 35 heures étaient une catastrophe pour le PME industriel, vous ne seriez pas invité. Et par ailleurs, les PME industrielles elles-mêmes ne s'exprimaient pas, elles sont rentrées dans leur tanière, et certaines se sont purement et simplement laissées mourir, quoi. C'est ça qui s'est passé, c'est vraiment une tragédie.
Anaïs Voigilet, dans votre ouvrage Pour une révolution industrielle, il y a une section qui est aussi consacrée peut-être à une autre cause de cette désindustrialisation, à savoir le fait, je vous cite, que la désindustrialisation aurait été non seulement subie, mais acceptée par les sociétés européennes et par la société française au nom de la promotion d'une société post-industrielle. Alors vous citez le cas de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, et vous dites qu'en France, il y a eu aussi une forme d'idéologie consistant à dire que la production de biens aurait moins de valeur que la production de services. Est-ce à dire que... il y a presque une forme de responsabilité intellectuelle, voire de responsabilité culturelle ou de l'opinion publique dans l'histoire de ce phénomène.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être plus spécifique à la France qu'à d'autres pays européens, parce que, en fait, quand on parle de réindustrialisation en France, ce thème de réindustrialisation ne trouve pas forcément le même écho dans d'autres pays, parce que d'autres pays européens ont maintenu une base industrielle plus solide ou ont maintenu l'industrie beaucoup plus au cœur de leur société. Et par exemple, si on compare la France et l'Allemagne, dans le tournant des années 2000, ça s'est traduit par des politiques différentes et par des prises de position très différentes. La première chose, c'est que l'Allemagne, au moment de la réunification, s'est conçue comme un pays site de production et a mis l'industrie au centre de son programme politique, de sa vision de société. Et c'était un sujet qui était relativement consensuel dans l'ensemble des classes politiques. Et ça en est suivi de différentes réformes, et notamment dans les années, fin des années 90, début des années 2000, quand en France, on a ce discours sur la société post-industrielle, sur la fameuse courbe en sourire, c'est-à-dire qu'il faut se positionner en amont et en aval de la production sur des tâches qui sont réputées à plus forte valeur ajoutée, l'Allemagne a une position différente. Et la France, c'était un discours qui était relativement majoritaire, c'est-à-dire que les cabinets de conseil, différents acteurs dans la société plaidaient pour le fait qu'il fallait ne pas rester en France, parce que rester en France était considéré comme une erreur, comme le fait qu'on allait finalement péricliter si on était un industriel qui restait sur ce territoire. Et si vous allez rencontrer des chefs d'entreprise qui avaient leurs activités à cette époque-là, ils ont tous entendu ce discours, et ceux qui sont restés se sentent presque comme des résistants face à un mouvement qui était présenté comme inéluctable. Et ça s'est traduit aussi en termes de politique publique, c'est-à-dire que l'Allemagne, dans les années 2000, a une politique de l'offre avec les réformes de Hartz, l'idée de contracter au maximum les salaires pour doper les exportations. Quand en France, on a plutôt une politique de la demande, c'est-à-dire à la fois une politique dynamique en termes de maintien des salaires et éventuellement des politiques de soutien à la demande avec, par exemple, des primes comme les primes à la casse, ce genre de choses, sauf qu'elles sont aveugles à l'origine des produits. Et ça se joue dans un contexte français qui est peut-être différent de ce qu'on a ailleurs, c'est-à-dire des pays, un pays qui a été fondé à travers le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les politiques de filières, la politique gaullo-pompidolienne, des grandes filières avec des grands donneurs d'ordre qui se sont internationalisés, donc qui ont contribué à la renommée de la France à l'international, qui ont quand même eu des bienfaits aussi sur notre économie, mais qui, en s'internationalisant, ont pu se détourner du tissu industriel. En tout cas, contrairement à l'Allemagne, on n'a pas réussi à intégrer dans notre tissu industriel, dans nos chaînes de valeur industrielle, l'Est de l'Europe, comme l'Allemagne l'a fait. Donc ça s'est traduit par un détricotage des chaînes de valeur. Et puis, une responsabilité, je pense, fondamentalement collective. Je pense que tout le monde avait sa raison, sa motivation pour ne pas forcément soutenir le tissu industriel. Ça peut être le consommateur pour des questions de pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure, ça peut être pour des motivations politiques, mais finalement, on n'y croyait plus et on pensait qu'on allait créer de la valeur autrement. Le Royaume-Uni l'a plus ou moins réussi en devenant une place boursière, mais avec de très fortes inégalités territoriales. Elle a amoindri les effets de la désindustrialisation en attirant beaucoup de capitaux étrangers. Les États-Unis ont aussi beaucoup d'inégalités, mais on réussit à faire sortir les géants de la tech. Et la France, un peu sur un modèle hybride qui fait qu'aujourd'hui, si on veut rebondir, on se rend compte qu'on est dans une situation très difficile. On n'a pas la situation économique de l'Allemagne. On n'a pas développé autant peut-être d'acteurs créateurs de valeur et de domination mondiale que les États-Unis. Donc la France cherche un nouveau modèle finalement.
Puisque Nicolas Dufourcq et Anaïs Voigilis sont d'accord sur l'idée de la responsabilité collective de la désindustrialisation, alors moi je ne cherche pas nécessairement des désaccords pour les désaccords, mais il y a un point dans le livre de Nicolas Dufourcq qui m'a interpellé, c'est que la mise en cause aussi, notamment dans les années 90, d'une forme de retard du monde économique français et des patrons qui n'auraient pas été, je dirais, assez réactifs face à la mondialisation. Nicolas Dufourcq fait remarquer que les patrons des années 90 apprenaient pas assez l'anglais, qu'ils étaient vieillissants, sexagénaires ou septuagénaires. Il s'agit pas du tout de dire que l'âge est un indice de retard, bien sûr, mais qu'ils n'ont pas modernisé leur gouvernance, qu'ils n'auraient pas recruté les nouveaux profils, bref, qu'ils auraient été en retard par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays. Vincent Charlet, est-ce que vous partagez aussi cet élément explicatif ?
Je pense que nous sommes tous à la recherche de la réponse à une question qui est compliquée. Si on prend un pas de recul et qu'on regarde l'histoire justement de la souveraineté ou des tentatives des différents États au cours du XXe siècle pour se trouver un axe fort dans leur stratégie économique. Ça a commencé par les ressources. La colonisation s'explique par le fait que les puissances occidentales se sont dit « il faut absolument qu'on maîtrise des ressources pour maîtriser notre avenir économique ». Et puis après, ça n'était pas toutes les ressources, mais seulement le pétrole. À quoi les Anglais ont répondu ? Bah, nous, on a gagné la guerre, on n'avait pas de pétrole. Alors que les Allemands l'ont perdu, eux qui avaient comme priorité de faire main basse sur le pétrole ukrainien, par exemple. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les ressources, c'est la maîtrise des routes du commerce, etc., etc. Puis le numérique est arrivé par là. Bref, l'ensemble des puissances économiques essayent de voir, parmi les différents atouts soutenir votre base industrielle, votre base productive, quels sont ceux qu'il est absolument essentiel de maîtriser. Et en réalité, on ne le sait pas bien. Les industriels eux-mêmes ne savent pas toujours ce qui fait la force, je veux dire, durablement, de leur entreprise. Anaïs parlait tout à l'heure de la courbe du sourire. Je souscris parfaitement à ce qu'elle dit sur le fait que, dans les années 90, c'était une opinion courante de se dire, écoutez, on regarde, on calcule, la courbe du sourire, c'est pas une vue de l'esprit, ça procède de calcul. La valeur ajoutée par tête, la valeur ajoutée par emploi, elle est plus élevée en amont et en aval de la production. Et donc, évidemment, tout le monde avait conclu qu'il valait mieux laisser la production partir à l'étranger, puisque de toute façon, c'était, on va dire, le sens de l'histoire. Mais quand on se souvient des descriptions des dirigeants d'entreprises de l'époque, je me souviens à la création de la fabrique d'industrie, 2011, quand on parlait de la Chine, personne ne savait dire exactement si la production suivait la R&D, si la R&D suivait la production, ou si on pouvait imaginer des modèles durables de fonctionnement d'entreprise avec la R&D et la conception, donc les parties tertiaires restant en Europe, et la production qui irait en Asie. Ce qui prouve bien que, au-delà de la courbe du sourire, c'est-à-dire au-delà de l'analyse véritablement de quel emploi dégage quelle valeur ajoutée, la compréhension fine de qui détient l'avantage sur l'autre ou de qui, à long terme, va conditionner le maintien des forces productives, ni les décideurs, ni les économistes, vous avez raison, ni les chefs d'entreprise ne le savent exactement. Et on est encore à tâtonner là-dessus. Je pense qu'on se dira peut-être dans 5 ans ou en 10 ans qu'il faut qu'on ajuste un tout petit peu notre vision actuelle de la souveraineté industrielle, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, parce qu'il va peut-être y avoir des efforts supplémentaires à faire dans le numérique, par exemple, c'est la partie non manufacturière du PIB, peut-être que l'un a besoin de l'autre, et qu'une stratégie de long terme, une stratégie viable de soutenabilité économique pour un pays comme la France, demande de marcher sur deux jambes.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, puisque Vincent Charlet, vous parliez de l'avenir, après avoir fait cette brève généalogie, cette généalogie synthétique des causes de la désindustrialisation, si nous évoquons les défis concrets qui vont marquer cette politique de réindustrialisation. Nicolas Dufourcq, alors je mentionnais vos ouvrages, vous êtes aussi directeur général de la BPI. Concrètement, la BPI contribue aujourd'hui à la réindustrialisation de l'économie française ?
Absolument. Merci de poser la question. Donc, une première petite bonne nouvelle par rapport à ce que disait Arnaud Montebourg tout à l'heure sur la liste des entreprises qu'on avait perdues. Dans les entreprises qu'il a citées, il y en a qu'on a regagnées. Hein, c'est juste pour dire que tout bouge tout le temps. Hein. Donc Technip est revenu. Et Technip est une magnifique entreprise extraordinaire hein, dont nous sommes actionnaires. Et on l'a fait revenir. Et si alors Luxottica aussi, il va ouvrir son siège social, gare d'Austerlitz. Et c'est la BPI qui l'a fait revenir. Hein. Alstom, nous sommes au capital. Et Alstom va déployer très correctement son plan stratégique. Alcatel a été tué par les Chinois. Littéralement. Hein. Et notamment par un pompage de propriété intellectuelle absolument méthodique qui faisait que quand Alcatel sortait un produit qui s'appelait le A3200, son concurrent Huawei sortait le produit H3200. Le même. C'est ça qui est arrivé. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cas particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, dans le plan de la BPI, on investit entre 30 et 40 milliards d'euros dans l'industrie dans les 4 ans qui viennent. Donc, c'est considérable. C'est beaucoup de fonds propres, beaucoup de crédits. Beaucoup d'innovation dans les PME. Beaucoup de financement de ce qu'on appelle les start-up industrielles. C'est-à-dire, c'est quoi ? Ce sont des chercheurs de haute technologie qui sont dans les universités scientifiques françaises, qui restent parmi les meilleurs du monde, qui décident de devenir entrepreneurs. Et on les accompagne. Hein, et comme il s'agit de fabriquer des objets complexes, très complexes, et qu'ils n'ont pas envie de les faire fabriquer en Chine, ce que, en fait, on s'était habitué à faire depuis, grosso modo, de 2005 à 2015. Très naturellement, le polytechnicien ou le PhD sorti de Jussieu qui voulait créer son entreprise de deep tech partait à Shenzhen. Bon, là, il y a un réflexe qu'on peut l'appeler culturel et patriotique qui est « je vais quand même essayer de faire en France ». Et d'ailleurs, la BPI va m'aider. Et c'est ça qu'on fait monter tous les mois. Ce sont des nouvelles usines. Certaines échouent. Il y en a une qui a échoué il y a 10 jours, ça s'appelle Insect. C'est très risqué. Hein. Mais on en fait quand même monter beaucoup et on est donc aux frontières de l'innovation et de la technologie. C'est ça qu'on essaye de faire. Ça permet aujourd'hui juste de stabiliser l'industrie à 10% du PIB. Pour remonter à 12%, 15%, je pense que c'est impossible. Pour remonter à 12%, moi j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas être naïf et qu'il fallait une quinzaine d'années d'efforts continus. Donc surtout pas de débat sur c'est bien ou pas, la politique de l'offre, le macronisme, tout ça, ça n'a aucune portée par rapport à la gravité de la situation de l'industrie française. Il faut 15 ans d'efforts, de financement de l'innovation, de protection des entreprises, d'absence de matraquage fiscal, c'est vraiment pas le moment, hein. De travail sur la psychologie des entrepreneurs pour qu'ils aient le courage d'y aller, parce que c'est quand même des batailles très difficiles. Et il faut qu'il y ait quand même des Français qui aient envie d'aller y travailler. Pour faire 12% du PIB, il faut créer, grosso modo, 500 000 emplois dans l'industrie en France. Vous vous rendez compte le nombre de gens qu'il faut former. Et il faut pas mal de tranches de nucléaire, parce qu'il faut que cette industrie soit électrique. Et il faut qu'elle soit décarbonée nativement, une industrie verte. On a d'ailleurs une carte à jouer. Donc c'est vraiment une mobilisation nationale complète. Je pense qu'elle est possible. Ce qui est nouveau par rapport au moment où j'ai écrit mon livre, là, c'est qu'on a le tsunami chinois 2.0, là, qui est beaucoup, beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Vous l'avez très très bien dit, hein. On a vécu un plateau, en fait, entre 2009 et 2019, et là, la guerre des mondes qu'on avait connue dans les années 2000 est repartie. Je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, que la destruction créatrice c'est très bien, sauf quand elle n'est qu'une destruction. Et là, la prédation chinoise est devenue tellement grave, alimentée par des ressources publiques absolument considérables, des banques forcées de prêter par le régime à des entreprises industrielles qui se mettent en surcapacité, qui les déversent ensuite dans le monde entier, que nous devons nous protéger. Et nous protéger significativement beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Enfin, 17% de droits sur les automobiles électriques, ça ne peut pas suffire. Il faut qu'on fasse beaucoup plus que ça. Voilà le moment qu'on est en train de vivre, qui est donc un moment politique à Bruxelles. Parce que tous les pays européens ne sont pas d'accord là-dessus, encore. Hein. On est encore, il y a des hystérésistes de vieilles cultures libre-échangistes qui sont là. Mais il faut reconnaître que le monde de l'OMC est mort.
Alors, dans cette mobilisation générale pour la réindustrialisation, Anaïs Voigilis, il y a un aspect dans un passage de votre livre qui m'a beaucoup plu, où vous rappelez aussi que l'industrie, c'est pas seulement une question économique, c'est une question de mode de vie, de culture, de mythe, d'imaginaire. Et vous appelez à réensemencer l'imaginaire de nos industries à la lumière des grands enjeux actuels, la lutte climatique, la réduction des inégalités. Et vous faites une comparaison, enfin une référence, à un mouvement artistique qui était lui-même lié à l'imaginaire industriel, qui était le mouvement boho. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle serait la mutation artistique dont nous aurions besoin, peut-être aussi pour changer notre perception de l'industrie du futur ?
Alors c'est une excellente question. En fait, je ne sais pas si c'est à moi de définir ce mouvement artistique. En tout cas, j'ai une conviction qui est assez forte, c'est que si on veut la réindustrialisation dans le contexte géopolitique actuel et le contexte environnemental actuel, on est obligé d'avoir quelque chose qui dépasse le seul cadre des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, les réponses pour réindustrialiser, on les a. Mais on a besoin de quelque chose qui devienne un mouvement de société. Se dire que l'industrie, et on peut questionner la forme, on peut questionner le modèle industriel. Alors aujourd'hui, on est dans des sociétés hyper optimisées sur le plan financier, optimisation des coûts pour réaliser des économies d'échelle, etc. Mais il y a vraiment la question de se dire, est-ce que la société fait partie de notre ambition en tant que société? Et si oui, sous quelle forme? Et comment, finalement, eh bien, cette question-là, c'est d'autres composantes de la société qui s'en emparent. Aujourd'hui, les gens qui parlent d'industrie, ce sont des industriels, ce sont éventuellement des spécialistes de cette question. Mais on a besoin que d'autres composantes de la société la prennent comme un objet de réflexion sur lequel on doit pouvoir apporter des réponses sur le plan architectural, sur le plan artistique, etc. Et ça manque. Parce que réindustrialiser, on peut en débattre autant qu'on veut, tant que ça ne sera pas un véritable souhait de société. Donc, qui interrogera la forme et le pourquoi de l'industrie, je pense que ça sera un vœu pieux et qu'on n'aura pas les réponses systémiques dont on a besoin. La Chine, elle a mis quand même l'industrie au cœur de son modèle. Elle a mis les politiques qu'il fallait, Made in China 2025, les nouvelles routes de la soie pour contrôler l'approvisionnement en matières premières critiques et exporter ses produits. Le véhicule électrique en Chine, ce n'est pas la réponse à un scandale environnemental. C'est une politique qui a 20-25 ans. Et nous, ce qu'on voit en Europe, c'est qu'on n'arrête pas de faire des stop and go. On ne sait pas ce qu'on veut en tant qu'Européen. Peut-être parce que c'est trop difficile de s'entendre à 27 et d'avoir une voix commune. Mais si on ne répond pas à cette question... On peut mettre des droits de douane, ça changera à chaque majorité politique, il faut que ça vienne de nos cœurs et de nos tripes. Et ça fait un peu naïf de dire ça, mais je crois que fondamentalement, il y a ici un début de réponse.
Vincent Charlet, la réindustrialisation est fort de toute la société, est fort d'un changement de mentalité, affaire de tripes, comme le dit Anaïs Voigilis.
C'est-à-dire que l'industrie, en effet, si elle doit devenir un sujet de société ou un choix collectif, ça nous conduit à des controverses et à des conflits peut-être plus nombreux encore, ou des mises en question en tout cas plus nombreuses que par le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que si le cœur productif de notre économie doit être renforcé, alors l'ensemble des consommateurs doit accepter, et ce n'est pas encore le cas, de s'y engager. Et on ne peut pas dire que l'industrie est devenue, fait partie de la conscience collective, par exemple, si les réflexes qui ont occasionné le mouvement de protestation des Gilets jaunes, à savoir le refus d'une taxation du carbone au motif du pouvoir d'achat, sont encore tellement vifs, tellement à fleur de peau, que l'ensemble des décideurs en France et dans toute l'OCDE sont totalement paralysés à l'idée de cette simple taxation du carbone à la consommation. À l'inverse, si l'industrie, je me répète, doit devenir un fait de société, alors il faut s'attendre à ce que les riverains, par exemple, disent ben, « c'est aussi notre industrie, et donc on va décider si oui ou non on veut d'une usine comme ci ou comme ça ». À tel endroit. Donc la controverse ne fait que démarrer.
Nicolas Dufour, qu'on a quelques secondes.
En quelques secondes, il faut faire des belles usines. Et on a donc construit, avec quelques-uns, et Anaïs est dans la partie, un concours des belles usines, avec les architectes. Et il faut que les jeunes aient très envie de retourner dans l'industrie. Et donc on a enfin réussi, au bout de 4 ans, à faire l'équivalent de Top Chef à la télé, qui est un Top Fab, qui s'appelle Made in France, qui fait de très belles audiences et qui monte des jeunes acharnés à faire des beaux objets industriels.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission. Merci beaucoup à Aline Biette pour la préparation et à Julien pour la réalisation et la mise en onde. Je recommande aussi le documentaire de France 5 qui a tué l'industrie française d'Ella Serfontaine, qui est très intéressant à ce sujet. Je vous retrouve bientôt et vous pouvez retrouver l'émission sur le site et l'application de Radio France. À bientôt.